Come on, c'est la deuxième heure de ce 1125e Sweet Home Chicago avec l'invité du jour, Christophe Goffet. Au téléphone avec Christophe Goffet. Salut Christophe.
Salut.
Tu es un jeune homme de 52 ans, tu vis en région parisienne. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé à la conception ou peut-être avant, je ne sais pas, pour que tu deviennes l'homme que tu es? Parce que tu écris comme tu respires, parfois même plus vite. Et j'ai envie de dire toute une série de qualificatifs. Pour toi, tu me diras après si tu es d'accord. Pour moi, je pense que tu es un garçon passionné, fonceur, compulsif, dithyrambique parfois, franc et direct, culotté en tout cas, collectionneur, ouvert, optimiste, insatiable, créatif, boulimique, compilateur, contestataire, curieux, organisé, efficace, fédérateur, ambitieux, complétiste, fatigant, tenace, positif, râleur, novateur, déconcertant, consciencieux, persévérant, inusable. Tout ça, ça s'applique bien à toi, Christophe ?
Bah, ça me paraît pas mal. Écoute. Tu commences par le qualificatif qui pour moi est le plus important, c'est passionné.
Passionné, voilà. Bien sûr.
Voilà. En fait, c'est de la passion que tout le reste est venu. Et pour le reste, j'avoue clairement que je pense, je plaide coupable. Je suis pas sûr que tout ça, quand tu additionnes tout ça, ça donne une version, une image de moi claire et intelligible.
En même temps, ce ne sont pas forcément que des compliments, mais quand je te qualifie de râleur, je pense que c'est un compliment quand même.
Parce que
quand on fait tout ce que tu fais, on va s'en rendre compte tout à l'heure, parce qu'on va, décrire un petit peu ton travail et ton historique dans la presse essentiellement, mais dans plein d'autres domaines. Christophe Goffet, il y a des gens qui te connaissent comme une simple signature de presse, d'autres qui savent que tu as fait du cinéma, que tu as fait de la musique, enfin tu fais un tas de choses. Tu as publié une montagne de livres et de revues, tu as des activités dans la télévision, la vidéo. C'est essentiellement la presse quand même. Tu étais pigiste pour plein de titres. On pourrait citer des choses comme Hard Rock, Site Ciné Live, Le Parisien, L'Express, Rock Sound. Enfin, il y a énormément de titres dans lesquels tu as signé de ta plume. Tu as été journaliste pour Guitare et Clavier. Alors, Line Up, Music Up, Mediator, Compact, tu étais rédac-chef. Rédac-chef également d'un magazine mondialement célèbre qui s'appelle Best. Ça a duré une petite année, 97-98. Et ouais, même pour Fluide Glacial en 2011. Ouais. Alors comment est-ce que tu expliques le fait que tout ça, ça pourrait pour certains être présenté comme une boulimie, d'autres pour une infidélité en fait, de changer de titre comme ça très très souvent. Comment est-ce que tu expliques toute cette liste pléthorique?
Bah, écoute, en fait, moi je parlerais plutôt de fidélité que d'infidélité.
Ouais.
Ou alors, si on, vraiment on veut jouer sur les mots, de fidélité à mes différentes infidélités. en fait, tu mets le... Tu mets l'accent sur le fait que j'ai surtout œuvré dans la presse. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que j'œuvre surtout dans l'écrit, puisque même quand j'ai participé, toi, j'ai bossé pour France Télévisions, pour Arte, j'ai réalisé un film, j'ai réalisé des reportages, des documentaires, des bonus, j'ai réalisé aussi des choses. Mais en fait, le point commun entre tout ça, c'est l'écrit. C'est-à-dire que tout ce que j'ai réalisé, même des choses qui pourraient paraître plus anodines ou superficielles, en fait, c'est très écrit. Et à la base, il y a vraiment un écrit. Donc si tu veux, c'est pour ça que je parle de fidélité. En fait, je suis fidèle à mes écrits, à mon écrit, à mon écriture. Et en fait, du coup, si tu veux, c'est un petit peu mon jus de cerveau qui ressort de cette manière-là.
Ça veut dire que quel que soit le média dans lequel tu t'exprimes, c'est toujours reconnaissable, c'est toujours Christophe Goffet qui le fait, et il y a toujours le même état d'esprit.
En fait, moi, je me reconnais en tout cas. Voilà, les gens, c'est difficile de connaître les personnes, déjà quand on vit avec, ou quand on est proche, ou même des membres de la famille. Donc, je ne vais pas dire que je suis reconnaissable, puisque les gens ne me connaissent pas, de toute façon. Mais moi, je me reconnais dans ce que je fais, ce qui, pour moi, est quand même l'essentiel, et c'est ce qui me permet de continuer et de surtout de ne pas avoir accumulé. Il y a beaucoup de gens, avec le temps qui passe, ils accumulent comme des espèces de mini-fardeaux, tu vois. Parce que je pense qu'à un moment, ils ont choisi des chemins de traverse qui les a éloignés d'eux-mêmes, et du coup, ça a forgé une image. Enfin, je pourrais te citer Philippe Manoff, par exemple.
Mmh. Oui, bah, très bon exemple.
Voilà, Philippe Manœuvre a une image qui ne correspond pas du tout à ce qu'il est. Mmh. Et du coup, ça fait des décennies, j'allais dire des années, mais ça fait des décennies qu'il court après les wagons pour essayer de se raccrocher à ça. Et du coup, ça sonne toujours un peu faux, tu vois, quand tu l'écoutes, quand il intervient à la télé, etc. C'est toujours un peu faux parce qu'en fait, c'est pas vraiment lui qui parle, ça vient pas vraiment de lui. Voilà. Mmh. Tout ça pour dire que Voilà, si réunit tout ça, je pense que c'est très personnel et il n'y a rien de plus personnel que l'écrit.
Alors, Christophe Goffet, homme d'écrit, qu'est-ce qui caractérise ton style ou, on va dire, ta façon de t'exprimer à l'écrit, que ce soit pour ta façon de conduire des interviews d'artistes, on va peut-être donner des exemples tout à l'heure, ou tout simplement des critiques d'albums, enfin tout ce que tu peux écrire. Est-ce qu'il y a une caractéristique principale ou plusieurs ?
Écoute, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de technique en amont. Il n'y a rien qui soit réfléchi en amont. Voilà, ça je veux dire. Je me dis pas, je fais comme ci, je fais comme ça. J'ai aucune habitude de travail, j'ai aucun rituel. Enfin, j'ai des petits rituels, mais c'est des conneries. Notamment pour les interviews, toi, je vais te donner un rituel. J'ai un rituel depuis plus de 30 ans. C'est de commencer mes interviews par une question qui est la seule que je sais que je ne garderai pas et qui est une question en général qui est faite pour détendre l'atmosphère.
Quelle est cette question, Christophe ?
C'est jamais la même.
Et là, par exemple, si tu devais interviewer le fantôme de David Bowie tout de suite, tu lui demanderais quoi ?
C'est difficile, c'est David Bowie, je l'ai déjà interviewé.
En fait. Ben oui, c'est mais, pour ça.
En fait, ce que je fais, c'est que j'essaye de synthétiser en une question différentes choses. La première, c'est je connais ce qu'a fait le bonhomme, je ne suis pas là les mains dans les poches, j'ai bossé, d'accord ? C'est pas juste j'arrive, je dépose. En général, j'arrive, j'ai 300 questions, je suis complètement débile, toi. J'ai une interview de 3 quarts d'heure, je viens avec 300 ou 400 questions, j'ai travaillé des 10 jours dessus, enfin, c'est n'importe quoi, hein. Clairement, j'en suis conscient.
Et donc, tu arrives à remplacer 10% quand même, j'espère.
Ouais, même, en fait, je ne les regarde même pas la plupart du temps.
D'accord.
Mais elles sont là, voilà.
Et ça t'a permis de t'imprégner du personnage que tu vas
interviewer. Ouais, en fait, pour moi, c'est une espèce de confort, ça me permet de... Bon, souvent, quasiment tout le temps, c'est des gens que je connais déjà, mais en fait, je... C'est un peu comme des révisions, voilà. Je pense que j'ai été très peu studieux. Les études, ça n'a jamais été trop mon truc. Mais j'y suis venu plutôt après, en fait. J'y suis venu avec mes interviews. Je pense que je bosse mes interviews comme un bon élève travaillerait un contrôle, tu vois.
Christophe, je te propose un truc qui n'était pas prévu. Si tu devais faire l'interview de Marc Loison, tu lui demanderais quoi en premier ?
Alors,
c'était pas prévu, on est bien d'accord. Hein.
Ouais. Écoute, je peux pas te faire une réponse... Je peux pas te faire une réponse.
C'est pas une réponse que je t'attends, c'est une question. Hein.
Ouais, je sais bien. Justement, pour te poser cette question, il faudrait que je me repenche sur ton cas de façon très précise, studieuse, compulsive. Je peux revenir sur la plupart des mots que tu as mis pour me décrire. Et de là viendrait une question. Mais cette question, en fait, elle viendrait de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que la plupart du temps, je me débrouille pour être en contact avec un proche de la personne.
D'accord.
Pour poser une question que je ne suis pas censé poser.
Donc en fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, Christophe, c'est que tu prépares à mort tes interviews. Tu dis que c'est un confort pour toi d'avoir 300 questions à l'avance. Ensuite, justement, le fait d'avoir déjà écrit tout ça, c'est presque comme si l'interview était faite et il suffit d'enchaîner avec une simple conversation avec l'interview.
Exactement. En fait, si tu veux, c'est une question de respect. J'ai été témoin d'interviews de personnes que je considère comme importantes, pas nécessairement des gens dont j'apprécie le boulot d'ailleurs, mais des gens, je vais donner un exemple, le premier exemple qui vient à l'esprit, Mo Tucker, donc qui était à la batterie du Velvet, etc., qui a joué avec le Sonic Youth, qui a fait plein de choses, qui a fait des albums solo, et ainsi de suite. Et donc ça remonte à, je sais pas, à la fin des années 80, ou dans les années 90, j'étais sur un festival en province, j'ai rien contre les provinciaux, hein, je suis pas parisien, j'ai jamais été parisien, c'est juste pour situer, toi. Et Mo Tucker s'est retrouvé dans une espèce d'interview de plusieurs, c'était des radios, je pense, puisque c'était que des micros plutôt de qualité radio, on va dire. Et les questions, c'était n'importe quoi. Il y avait 5-6 personnes, j'allais dire journalistes, non, je ne dirais pas. Donc il y avait 5-6 personnes qui posaient des questions, et je te promets, c'était n'importe quoi.
C'était inepte, c'est ça l'idée.
Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Déjà, mon premier réflexe, ça a été, mais comment elle peut garder son calme, quoi. Moi, je leur foutrais ma main sur la gueule, je me barrerais. Bon, je suis pas très violent. Et en fait...
J'ai pas mis violent dans ma liste, effectivement.
Ouais, non, je ne le suis pas. Mais en fait, je me suis rapidement rendu compte que le niveau moyen, on va dire, des critiques, des journalistes, des intervieweurs, était même pas faible, c'était nullissime.
Alors ça se mesure à quel thermomètre ? Est-ce que c'est par rapport à, justement, à cette impréparation à laquelle tu as pu être témoin ?
Non, mais pour moi, et en plus ça va crescendo, ou plutôt décrescendo, c'est un peu la déévolution de Divo, tu vois, c'est un peu ça l'idée. pour moi, je pense que ça fait juste partie d'un ensemble, c'est-à-dire qu'on vit dans une société où le médiocre devient la règle, et tout le monde est médiocre, et tout le monde est se complaît dans sa médiocrité, tout le monde est content d'être nul, mais en fait non, ça marche pas comme ça.
Et pourtant, ton anecdote a déjà 30 ans, Christophe. Hein.
Ouais, mais j'en ai une plus récente. Tu vois,
vas-y.
Festival de Cannes, vers 2008-2010, je voulais vraiment rencontrer Sean Penn. Ouais. Je l'avais déjà croisé dans les années 90 avec Nicholson sur un autre truc, mais je voulais vraiment, voilà, j'avais bossé une interview alors que j'avais pas d'interview. En fait, il donnait pas de one-on-one, voilà, c'était que des tables rondes.
Que des confs, ouais.
Voilà, le côté cannois, tu vois. Et donc, j'avais accepté d'aller à cette table ronde. En fait, j'y allais en tant que quelqu'un d'autre de première, parce que j'étais même pas autorisé à y aller moi. Donc, j'avais pris la place d'un copain qui bosse pour première. Et je me retrouve dans cette table ronde, et donc on est 8 personnes de 8 magazines différents, de 8 pays différents. Et t'as Sean Penn au milieu. C'est pour un film qui s'appelle The Assassination of Richard Nixon, qui est un film très politique, très social, où il y a plein de choses à dire.
Ouais.
Première question, c'est une mexicaine, ou je sais pas quoi. À l'époque, il était encore avec Robin Wright Penn, ils étaient encore ensemble. Et première question, hein, je te promets que c'est vrai. Non, elle dit, bon, alors, mais quand vous travaillez l'un et l'autre sur un tournage en même temps, qui garde les enfants?
D'accord, oui, on aurait pu demander ça à François Hollande et à Ségolène Royal à une époque, oui. C'est...
Voilà, sachant qu'on est 8, on a 20 minutes pour parler d'un film où il y a vraiment, c'est un film qui parle des Black Panthers, enfin qui parle de plein de choses. En plus, c'est tiré d'une histoire vraie. Et tout ça pour dire que c'est comme ça partout. Et, je veux dire, il faut pas être surpris que la presse n'existe plus, en fait, quasiment. Faut pas être surpris que. Alors je dis pas que je suis mieux, tu vois, mais je dis que je fais le boulot.
Ouais.
Et que mon confort à moi pour marquer mon respect de l'artiste et de son travail, de son parcours, c'est de faire le boulot. Alors le boulot, je le fais H24 en fait, parce que en général, je rencontre des gens dont déjà j'apprécie tout ou partie du travail. Donc, je sais où j'arrive. Je débarque pas comme ça, fleur au fusil, toi. Mais je fais le boulot. Alors après, il y a un autre truc, c'est que moi j'ai commencé très très jeune.
Alors justement, ça fait partie des questions que j'allais te poser. T'as eu un rapport à la musique, notamment. Tu parlais du cinéma, mais on va évoquer ce volet-là tout à l'heure, Christophe. Je crois que t'as commencé à écrire vers 14 ans, c'est ça?
Ouais. En fait,
il y a peut-être eu des rédaction dès au moment où tu as su écrire, peut-être dès le CP, où tu as commencé
en fait,
à t'exprimer.
En fait, j'ai découvert a posteriori, enfin j'ai redécouvert que j'avais déjà créé une revue, un one-shot, en CE1.
D'accord, voilà, j'étais pas loin, tu vois, CP, CE1.
Donc bien avant, tu vois, mais effectivement, j'ai commencé à écrire à 14 ans, en fait j'ai démarré mon premier fanzine à 14 ans. J'ai pas un souvenir exact du moment où j'ai commencé à écrire, je pense que j'ai commencé à écrire dans ma tête avant d'écrire physiquement, voilà. Mais tout ça c'est simplement de l'ennui, si tu veux. J'avais mes parents avaient déménagé, on s'est retrouvé dans un endroit suffisamment éloigné géographiquement pour que je ne puisse plus voir tous mes potes d'avant, et puis très éloigné aussi au niveau social, en fait. Je me trouvais je venais d'une cité HLM et je me suis retrouvé dans une banlieue de fils à papa, tu vois.
D'accord.
Et donc en fait ces gens, je les comprenais pas, j'arrivais pas, voilà, on n'arrivait pas. Donc du coup en fait j'ai arrêté quasiment mes études, tu vois, j'ai arrêté de m'y intéresser et j'ai commencé à écrire.
Et c'est ça qui t'a fait te pencher vers l'écriture. Par rapport à tout ce volet autour de la presse, Christophe, il y a quand même un truc qu'on se dit, être payé pour écouter de la musique, lire, voir des films, voyager, il y a pire quand même, non?
Ouais. Alors, je vais peut-être te surprendre, mais ça va faire un petit moment que j'écris professionnellement, puisque donc tu as rappelé mon jeune âge, et mes premières prises pro ont démarré pour mes 15 ans, un petit peu avant mes 16 ans.
Ouais.
Guitare et clavier. C'est un peu l'histoire de Presque Célèbre, le film, tu sais. C'est exactement, il m'est arrivé la même chose, voilà. C'est juste qu'ils m'ont pas demandé mon âge, contrairement au personnage de Presque Célèbre, le réalisateur d'ailleurs, c'est son histoire. Moi, j'ai pas triché sur mon âge, on m'a juste pas demandé.
D'accord.
Mais le fait est que j'ai commencé à écrire à 15 ans et demi, 15 trois quarts, à guitare et clavier. Bah, tout ça pour dire que donc ça fait 35 ans, un peu plus de 35 ans que j'écris, et que on peut dire que c'est mon métier principal. Mais dans la presse, quasiment tout le temps depuis donc, 3 décennies et demie, je fais d'autres choses à côté pour payer mes factures.
Mmh.
Et alors, moi, je trouve ça bien, en fait. C'est-à-dire que du coup, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de déperdition. Au contraire, j'arrivais mieux à exprimer mes passions sans filtre, etc., parce que j'étais pas payé. Tu vois, j'étais rédacteur en chef de Best, pas un an, mais en fait 2 ans et demi, c'est pour... bon, peu importe. Mais je n'étais pas payé pour ça, parce qu'il n'y avait pas d'argent.
Et ça, c'est l'éternel débat entre le professionnel et le bénévole. Tu penses que quand il n'y a pas d'argent au bout, la passion peut mener à tout et on va plus loin et on fait un travail de meilleure qualité?
Non, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne tire pas à la ligne. Ouais. C'est-à-dire que tu ne vas pas accumuler les chroniques, les machins, les trucs, les bidules, parce que en fait, tu es payé au feuillet.
Ouais.
Ça, je l'ai fait aussi. J'ai eu une période un peu mercenaire, tu vois, après ma première revue qui s'appelait Mediator en 92. Entre 92 et 95, j'écrivais pour une vingtaine de revues à peu près. Et là, clairement, j'accumulais les rubriques, les machins, les trucs. J'étais payé partout. Et clairement, j'étais mercenaire. Mais je me suis rendu compte, après coup, que pas spécialement la période où je donnais le meilleur de moi-même. Je devenais un peu feignant. Après, voilà, j'étais jeune, 23, 24, 25, 26 ans. Bon, ok. En fait, non, j'ai vraiment remarqué ça. Et dans la constitution de mes équipes, parlons de Crossroads, par exemple, Crossroads, on était tous bénévoles. Moi, Crossroads, depuis que ça existe, j'ai pas pris un centime dessus.
Crossroads, c'était le départ, c'était il y a 20 ans, le 26 décembre 2001.
Exactement.
C'était un bimensuel, je crois, au départ. Bimestriel, c'est devenu mensuel. Comment est-ce que c'est né, justement, cette première mouture de Crossroads que tu es en train de ressusciter, justement, on va en parler tout à l'heure.
Écoute, c'est assez curieux. J'avais déjà... je rétro-pédale très légèrement. J'avais créé une revue qui s'appelait Music Up pour un gros éditeur. Cette revue, l'éditeur l'a arrêtée au bout d'un an. Non pas parce que ça marchait pas, mais parce que, bon, bref, il y avait des tensions, notamment entre lui et moi, en fait, pour être clair. Si tu veux, un jour, il est venu me dire que pour lui, mettre Patricia Cass en couverture d'un magazine de rock, c'était une bonne idée. Moi, on s'est un peu engueulé. et je lui ai dit que, voilà, moi vivant, jamais il y aurait Patricia Cass en couverture.
Pourtant, c'est une très bonne chanteuse de blues. Je ne vois pas ce que tu reproches à Patricia Cass, Christophe.
je pense qu'il avait envie de monter dessus. Hein. Je pense que c'était un truc comme ça.
On coupera au montage, ça, il n'y a pas de problème.
Il avait envie de monter dessus, tu peux pas le couper au montage.
Non, on ne peut pas le couper au montage, on est bien d'accord.
J'ai déjà coupé au montage.
La jeunesse de Crossroads, on était là-dessus. Voilà, concentrons-nous.
Dans la foulée, avec la même équipe, parce que eux étaient un peu frustrés, moi j'avais déjà l'histoire, tu vois, dans la presse, et donc, cet arrêt, ça m'a pas spécialement choqué. En fait, je suis parti en vacances 2 mois aux États-Unis, tu vois. Mais l'équipe que j'avais constituée, là pour le coup, ils étaient payés, vraiment ils avaient tous les boules. Et donc en revenant, j'ai dit continuons, la même équipe, mais faisons un gratuit. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas de gratuit.
Et c'était compact.
Et j'ai lancé compact, format gratuit, donc c'est un tabloïd distribué à la sortie des concerts, 100 000 exemplaires.
Et ça, c'est un petit peu le pendant du Chicago Reader ou de tout ce qu'on peut trouver dans les grandes villes américaines, quoi.
Alors, compact était très généraliste, de la même manière que Music Up, en fait. Donc ça allait vraiment, c'était généraliste, simplement. On peut pas le décrire plus simplement. Et au bout d'un moment, au bout d'une dizaine de numéros, c'était l'été 2001, donc, j'étais dans mon jardin, et j'étais en train d'écouter l'album de Stevie Ray Vaughan avec Albertoli, si je ne me trompe pas. Albert King. Bêtise.
Enregistré au BBC de Londres en 83.
Voilà, exactement. Et donc j'étais en train d'écouter ça en prenant mon petit déj dans mon jardin, j'ai mis les enceintes dans le jardin, l'avantage de ne pas avoir de voisins. Et puis, je réfléchissais en même temps que je prenais mon petit déj, je me suis dit, mais en fait, pour les gens qui vraiment aiment ce genre de choses, il y avait des fanzines, il y avait des choses, quoi. Mais je me suis dit, ce serait peut-être pas con de défendre ces musiques-là, on va schématiser rock and roll au sens très large, à un niveau national et même international, parce qu'en fait Crossroads se vendait partout où il y avait des francophones, donc ça se vendait au Maghreb, ça se vendait au Canada, en Belgique, en Suisse, etc.
Tu veux parler d'une presse pas spécialisée blues, on est bien d'accord. Parce que tu as pris un artiste de blues en exemple.
Ouais, en fait, non, c'est venu avec ce disque-là.
Ouais, d'accord.
Ah, j'ai décidé rapidement, en fait, si tu veux, Crossroads devait être un satellite de compact spécialisé, donc plus spécialisé en tout cas de compact, qui était généraliste. Et mon idée, c'était d'avoir d'autres satellites ensuite, y compris de choses qui ne me touchent pas du tout, comme les musiques électroniques. Tu vois, j'en écoute. Mais alors, pas du tout, même pas une seconde dans ma vie, ça me tombe des oreilles. Mais j'avais des gens que ça intéressait, et donc je m'étais dit, pourquoi pas lancer, pareil, un bimestriel de musique du monde, puis après, musique électro, puis même pourquoi pas un truc urbain avec du rap, etc. Pourquoi pas, toi. Là, c'était l'éditeur qui échafaudait des plans, tu vois, c'était pas le rédacteur-chef ou le mec qui a envie de transmettre des choses qu'il apprécie. Voilà. Et le Crossroads aimait comme ça. Ouais. Et ensuite, effectivement, pour tout de suite dégoupiller le truc et qu'on ne dise pas, qu'on ne me catalogue pas à tort et à travers comme un truc que blues ou que un œil dans le rétro et puis le deuxième, on sait pas où. Et ben j'ai décidé d'avoir sur la couverture, en couverture du numéro 1,
Ryan Adams.
Un mec le plus jeune possible. Mmh. À l'époque, il avait 26 ans, son premier album. Voilà. Ouais, c'était pour montrer que, ok, toutes ces musiques dont on va parler, on les connaît. On va pas dire n'importe quoi parce que voilà, on est passionné, mais on continue d'écouter ce qui se passe et il se passe toujours des choses intéressantes. Voilà. Et on va aussi vous le dire.
Et ça, effectivement, voilà. c'est un bon clin d'œil pour les gens qui écoutent de la musique d'hier avec les musiciens d'aujourd'hui. C'est toujours possible, 20 ans après, il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner. Et puis, petit à petit, ben voilà, Crossroads est devenu X-Roads. Ensuite, le titre a disparu et là, tu es en train de le réactiver. Mais ça fera partie d'une deuxième partie d'interview. On va écouter un petit extrait de la discographie de Creedence Clearwater Revival pour parler des artistes d'hier, mais dont les musiciens sont toujours actifs. Et on se retrouve juste après, Christophe, d'accord ?
Ouais, tout de suite.
À tout de suite. Voilà, on vient d'entendre Creedence Clearwater Revival Green River, extrait de l'album du même nom, un album de 1969, une année que tu connais presque par cœur, Christophe. Voilà, c'était pas tout à fait un hasard. Et puis, John Fogerty a fait partie de pas mal de chroniques que tu as pu signer, et même notamment, je crois, d'une couverture toute récente de la version actuelle de Crossroads. Je voudrais qu'on aille sur Toi et le cinéma, c'est aussi une longue histoire. Est-ce qu'on peut évoquer le magazine Brasil et auparavant, peut-être, ta rencontre avec Terry Gilliam des Monty Python ?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, le cinéma, c'est-à-dire que c'est mon premier amour parce que, en fait, toutes ces choses ont évolué en parallèle, mais en tout cas, mon premier fanzine, avant d'être un fanzine de musique, Mediator, c'était un fanzine de cinéma. Enfin, sur le cinéma, et même sur le cinéma de genre, ça s'appelait Cauchemar, au pluriel. Voilà, donc, voilà. Tout ça pour dire que le cinéma, voilà, c'est là depuis le début aussi. Ma rencontre avec Gilliam, c'est simple. Mon premier livre que j'ai donc écrit, c'était sur les films cultes. J'ai écrit en 93, il est sorti en 94, quelque chose comme ça. Et à l'époque, au niveau des moyens de fabrication, d'impression, on n'avait pas autant de possibilités qu'aujourd'hui. À l'époque, ça marchait par cahier, etc. Et donc, mon éditeur nous dit, écoute, voilà, on a un peu des pages, on a 2, 3, 4 pages vides. Qu'est-ce que tu veux y mettre? Est-ce que tu veux une préface? Et à l'époque, j'étais un petit punk con, machin. Tu vas tous se faire foutre, râleur.
Pléonasme, Christophe.
Exactement. Et lui, non. je veux personne. Et puis je réfléchis, puis je rappelle l'éditeur le lendemain matin, j'ai dit non mais écoute, si c'était avec Gilliam, je veux bien, parce qu'en fait Brasil a déclenché plein de choses. Avant d'être ma revue, c'était donc forcément son film.
Oui, oui.
Et même si lui, dans un édito, dans un article qu'il a écrit pour Brasil, il disait l'inverse en fait. Mais bon, c'est amusant.
Rappelons que Brasil a été tourné, enfin qu'il est sorti en 1985, c'est pas un film tout à fait récent, mais continue à faire référence pour pas mal de gens, pour toi bien sûr, en l'occurrence.
À chaque discours de Macron, on peut faire référence. par exemple.
On parlera de Uchronia peut-être aussi rapidement.
Exactement. et voilà, et en fait, il se trouve que cet éditeur, qui était en fait un auto-éditeur, j'étais le premier auteur qui n'était pas lui-même, qu'il publiait, avait sorti un livre avec Gilliam 2 ans avant, et il avait un contact, il avait son adresse en fait, à Londres à l'époque, pas d'email, pas de tout ça.
Bien sûr.
Et je dis, bah, ok, je le tente. Et donc j'ai écrit un courrier à Gilliam pour lui dire, je sais même plus ce que je lui ai dit en fait. Mais bon, je suppose pour me présenter le bouquin et lui dire que voilà, ce serait fun qu'il fasse la préface. Et puis une semaine après, vraiment le temps d'un aller-retour, une semaine après, je recevais chez moi un petit mot sympa que j'ai toujours, ainsi que sa préface, on l'a mis dans le livre. Et voilà, donc ça a été ma première rencontre épistolaire, on va dire.
Ouais.
Et ensuite, à l'époque, il y avait un salon du livre du cinéma à Chaillot. C'était assez gros, c'était vraiment un gros truc, avec des émissions de télé sur place et tout. C'était quand même gros. Et l'éditeur m'a dit, est-ce que tu veux, le bouquin sort juste avant, est-ce que tu veux venir le dédicacer? Je dis, ça n'a aucun sens, qui va venir, ma mère, ma sœur, ma grand-mère, enfin.
Mais c'est bien déjà d'inviter, de penser à la famille, ça c'est important.
Voilà. Et je lui ai dit, mais par contre, si tu as Gilliam bien, ok, là ça a un intérêt.
Ouais.
Et il m'a répondu, écoute, quand il t'a écrit, il t'a envoyé ça sur du papier en tête avec son numéro de téléphone, appelle-le. Il dit, moi-même, j'ai pas le numéro, toi tu l'as, appelle-le. Et donc j'ai appelé, tu as Gilliam. Il m'a dit, j'ai rien mieux à faire, je viens. Voilà. Et donc on a passé 3 jours.
Et ça, c'était en quelle année, Christophe ?
94.
94, voilà.
Voilà, le bouquin est sorti en octobre 94, et le salon du livre, ça devait être novembre, en tout cas. On a fait une nuit des films cultes au Max Linder, qui a donné lieu en marge à un repas, un dîner mémorable avec Caro, Jeunet, Thierry Gilliam, moi et quelques autres. Un repas très liquide.
J'imagine, avec quelques dossiers à épuiser, évidemment. On aurait pu penser à inviter peut-être Bernard Blier, Lino Ventura et Jean Gabin pendant qu'on y était. On voit bien l'ambiance tout de suite, effectivement. Et donc, c'est une histoire d'amitié qui existe depuis 27 ans. Thierry Gilliam, rappelons que après-demain, il va fêter ses 81 ans.
Ouais.
Un garçon qui est toujours actif dans le cinéma.
Il fait ce qu'il peut.
Il fait ce qu'il peut.
Si tu veux, il est actif en ce sens qu'il échafaude des films, qu'il prépare des films. Mais voilà, ensuite, il se retrouve à buter contre des murs de plus en plus hauts, de plus en plus infranchissables. Parce que, on est dans un système...
Parce que le contenu de Brasil est devenu réalité.
Oui, on est dans un système qui valorise plus du tout les auteurs-réalisateurs, déjà. Donc, aujourd'hui, c'est des comités de lecture, ça passe en machin, en bidule, faut déplaire à personne. Le marketing coûte tellement cher qu'il faut un retour sur investissement. Enfin, c'est devenu n'importe quoi. Enfin, c'est devenu une industrie. Enfin, c'était une industrie, mais là, ce n'est plus qu'une industrie.
Alors, le magazine Brasil, il porte ce nom parce que le film Brasil, on l'a bien compris, et il y a eu une fusion à un moment donné entre tes deux magazines fétiches, Brasil pour le cinéma et Crossroads pour la musique. Il fallait prendre le bouquin à l'envers et il y en avait le début de Brasil. C'était du jamais vu déjà. Enfin, à l'époque, moi, je me souviens, c'était un peu révolutionnaire.
Ouais, ouais, alors,
ça n'a pas tenu pas plus que quelques années, mais ça avait le mérite d'exister et puis de proposer,
il y a une raison, autre, si tu veux, c'est pas un choix éditorial. À l'origine, c'est pas un choix.
C'est un choix économique, peut-être.
Non, c'est une réaction. J'avais eu un procès assez long contre notre ami Monsieur Luc Besson.
Ah oui, je me souviens de ça, oui.
Voilà, et en fait, je vais dire les choses très schématiquement, parce que je voudrais pas non plus que ça me retombe dessus, parce qu'il y a eu un procès, puis il y a eu pas mal de vagues derrière.
Non, mais on est entre nous, il n'y a pas de souci.
Ouais, ouais. Si tu veux, à l'époque, il était en train de faire passer sa Cité du cinéma pour inviter une belle escroquerie, aux frais du contribuable, je précise. Bref, il a eu plusieurs rendez-vous avec Raffarin, qui était Premier ministre à l'époque.
Ouais.
Et incidemment, alors ça n'a peut-être pas de rapport, c'est un petit peu comme ces gens qui meurent après s'être fait vacciner, tu vois. Pop, pop, pop. La causalité, on ne sait pas. Bref, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que juste après que Besson ait vu Raffarin, on s'est retrouvé qu'il y a un contrôle fiscal perso, contrôle fiscal entreprise, contrôle URSSAF perso.
Pur hasard, Christophe.
Contrôle TVA, voilà, total. Et ils m'ont coincé sur rien, parce que tout était clean. Sauf un truc qui n'était pas de mon ressort, en plus, qui est que... mon diffuseur. Il y a une liasse pour l'exportation des revenus, toi, pour la TVA, pour déclaration de TVA, une liasse de couleur, jaune, bleu, vert, je sais plus quoi. Je sais pas, en fait, parce que ça passait pas par moi, ces trucs-là, du tout. Mais si tu veux, une mauvaise couleur aurait été envoyée dans un certain nombre d'endroits pendant un certain nombre de temps. Et donc, alors que de toute façon, ça n'avait aucune incidence sur quoi que ce soit, et certainement pas sur la TVA que je leur devais, en fait, moi j'étais vraiment à jour, clean, ouais. Ils ont voulu me faire payer une amende forfaitaire de, si mes souvenirs sont bons, 840 € par papier qui n'était pas de la bonne couleur.
Et tu penses que ça avait rapport avec ton conflit ouvert avec Luc Besson ?
Ah oui, clairement, ouais, clairement.
D'accord. Bon, bah écoute.
Si, ça marche comme ça. Tout ça pour dire
C'est une affaire conclue maintenant, j'imagine.
Ouais, mais en fait, il a fallu que j'aille défendre mes revues auprès de gens du fisc notamment. Donc je suis monté. En fait, on m'a envoyé chier à tous les étages et je suis monté jusqu'au plus haut que je pouvais. Et là, j'y suis allé et en fait, j'avais rendez-vous avec une espèce de. Ils étaient 8 ou 10 avec des belles cravates et tout, avec le teint grisâtre et tout, à la totale. c'était à l'hôtel des impôts, tu vois, histoire d'être bien dans l'ambiance. Je suis arrivé avec un numéro de Crossroads, je l'ai posé sur la table et je leur ai expliqué pourquoi je faisais Crossroads. Je leur ai expliqué que voilà, qu'on était une bande de passionnés et que bon, voilà, s'ils voulaient me planter, ils me plantaient, j'arrêtais et puis c'est tout. Pas compliqué, j'avais pas l'argent de toute façon. Et on a convenu d'un accord, en fait, qui est que voilà, ils m'ont dit entre les lignes que voilà, qu'on leur avait demandé en gros de me défoncer la gueule, mais mon argumentaire quand même les avait touchés et que si j'arrêtais un de mes titres, laissait tomber. Et il fallait que ce titre, ce soit Brésil, parce que le procès était sur Brésil.
D'accord.
C'est pour ça que j'ai mis Brésil dans Crossroads, en fait.
Et c'est pour ça que tu as gagné 8 abonnés à Crossroads par rapport à cette
entrevue. Ensuite, en fait, j'ai laissé passer 2-3 ans. Et puis, sans aucune coupure, j'ai relancé Crossroads sous un autre nom, parce que je ne pouvais pas utiliser le même nom. D'ailleurs, Crossroads ne s'est jamais appelé Crossroads. Hein. Il s'appelait Compact Crossroads. Mm-hmm. Puis Crossroads avec la croix.
X-Roads, oui.
Voilà. Ouais. Parce que le mot Crossroads n'est pas déposable, en fait, il appartient à une société qui achète des noms pour les revendre. Et il est hors de question que je donne quoi que ce soit.
Oui, c'est la société Robert Johnson Incorporated, je crois.
Exactement. Pourtant, je suis allé avec Larsdale et tout pour essayer de leur demander des comptes. Mais...
Bah oui, dommage.
Voilà. Et du coup, j'ai lancé Brésil 2. Donc, ça s'appelait vraiment Brésil 2. Et comme ça, en fait, j'avais fait toutes les demandes d'INPI, enfin, toute la paperasse en amont de façon très discrète. Et ce qui fait que personne ne pouvait rien faire.
Alors, avec toute cette histoire, Christophe, on se rend compte qu'en tant que rédacteur-chef et créateur de revues, magnat de la presse que tu es et que tu étais déjà, on ne peut pas se concentrer uniquement sur le rédactionnel, mais il y a aussi tout le côté administratif, tout le côté juridique qu'il faut apprendre à maîtriser. Pas facile tout ça. Enfin, tu as appris sur le tas, tu as des avocats, tu as des gens qui t'ont conseillé pour tous ces déboires.
Écoute, comme j'ai beaucoup fait les choses sans le sou, j'ai beaucoup appris à préparer mes procès moi-même, en fait. C'est toujours pareil, tu trouves un avocat pour te défendre et puis tu lui dis, bon, écoutez, le dossier, 95%, c'est moi qui vais le préparer. Voilà, et le gars, il te dépêche une assistante de stagiaire qui va te dire, ça correspond à tel article, machin, et qui va te mettre ça en jargon juridique. Et mais en fait, toi, le procès Besson, c'est moi qui fais le boulot. Les témoignages que j'ai eus pour moi, ont témoigné pour moi Dupontel, Despentes, Thierry Gilliam, Woody Allen, enfin, il y a beaucoup de monde, les mecs des Guignols de l'Info, à l'époque, il y a pas mal de monde. Tout ça, c'est moi qui l'ai fait, en fait. L'avocat a strictement rien foutu. L'avocat, il a juste envoyé des factures.
Alors,
mais il m'a représenté. Voilà.
Pour conclure ce côté juridique de ton rapport avec le cinéma, on pourrait quand même évoquer un petit peu ce film ukrainien que tu as tourné en 2018, qui n'est pas sorti maintenant, encore à l'heure actuelle, en 2021. Il y a eu pas mal de bâtons dans les roues, et puis il y a eu tout le Covid, évidemment. Qu'est-ce que ce film ukrainien veut exprimer ? Qu'est-ce que tu as voulu faire passer comme message ?
Écoute, c'est un petit peu le confluent d'un ensemble de constats d'absurdité quotidien. C'est-à-dire que pendant toutes ces années, comme tous les gens, je suis là, je regarde, j'écoute, je vois, j'essaye d'analyser sans avoir trop d'a priori ou autre. Et j'ai tout mis, en fait, si tu veux, les choses que je trouve absurdes, et il y en a beaucoup, quasiment tout absurde.
Je crois qu'on est gâté particulièrement en ce moment-là,
voilà,
quand même.
Les choses que je trouve absurdes, j'ai décidé de les pousser encore plus loin dans la stupidité et l'absurde, pour deux choses. D'abord, parce que c'est un ressort humoristique classique, c'est les Monty Python, par exemple.
Oui.
Et ensuite, parce que l'une des meilleures façons d'avoir des gens qui ne sont pas passifs devant un film, qui sont actifs au sens où il va rester des choses derrière, ils vont y réfléchir, réfléchir, d'ailleurs une espèce d'empreinte ou de germe, enfin, si tu veux, bah, c'est de voilà, c'est de faire passer les choses par l'humour.
Donc voilà. Ça me fait penser à un film de 2006 d'un certain Mike Judge qui s'appelait Idiocratie. Je crois qu'il avait un nom français qui c'était Planète Stupide. Enfin, voilà, c'était il y avait vraiment le côté humoristique qui passait très bien avec ce même thème finalement. Est-ce que toi aussi l'humour c'est quelque chose qui t'a guidé pour Uchronia ou est-ce que tu es resté dans la morosité?
Oui, complètement. En fait, Uchronia, la source d'Uchronia, ça va être mes premières lectures des proches, de Gottlieb quand j'étais môme. Cavana, quand Cavana refait l'histoire de France. Voilà, il y a ça aussi. Et puis ensuite, mélangé à des choses qui sont apparues plus tard et qui sont très prégnantes dans la société. Philippe Cadic, ce qu'a fait Terry Gilliam aussi, avec ou sans les Monty Python, parce que bon, c'est quand même très différent. Voilà, donc c'est un mélange de tout ça. Et on peut citer
Alfred Jarry d'un côté, George Orwell de l'autre. Ou est-ce que tu te situes dans le curseur, si on met Alfred Jarry, uniquement le côté bouffonnerie, et puis bon, on peut peut-être ajouter Kafka aussi, pourquoi pas.
Écoute, George Orwell. Moi, j'avais qu'une seule idée tout ce temps-là, parce qu'en fait, il n'a pas été tourné en 2018, mais il a été tourné entre 2010 et 2020. Et il a été tourné sur longtemps, parce qu'il a été tourné sans argent, vois-tu. Avec des gens très connus, mais sans argent.
Quand on n'a pas d'argent, il faut avoir du temps. C'est ça l'histoire.
Ouais, et puis, bah oui, parce qu'en fait, il fallait que j'attende que les uns et les autres soient en France, parce que je ne pouvais pas, moi, aller ailleurs. On tournait en équipe ultra réduite. Il m'arrivait de prendre des... Toi, d'aller dans la rue et de dire, mais tu fais quelle taille, toi, 1m95? Ah, t'as pas envie d'être perchiste cet après-midi? Je te promets, il y avait des trucs comme ça.
Tu penses que ce film va arriver à sortir un jour?
Oui, bien sûr. Écoute, le film est fini. Il devait, au début de l'année 2020, j'étais en train de commencer à travailler sur une tournée d'avant-première sur fin d'automne 2020. Évidemment, j'ai tout arrêté. Voilà. Et là, j'attends parce que moi, je refuse de participer à tout ce qui touche de près ou de loin à leur pass sanitaire. Je dis bien pass sanitaire. Donc, il est hors de question que j'aille de poser mes fesses dans une salle de cinéma tant qu'il y aura leur connerie. Donc, je suis en train de réfléchir aussi à autre chose éventuellement. En même temps, j'attends de voir l'évolution, mais je ne pense pas qu'on aille vers du beau.
Bah après, ça peut être une distribution sur une plateforme, soit de téléchargement, soit un truc genre Netflix.
Mon luxe avec ce film, c'est qu'il n'a pas immobilisé de l'argent, donc j'ai pas à rembourser des trucs.
Voilà,
j'ai
t'as pas un producteur à rembourser.
J'ai pas un besoin de retour sur investissement. Très bien. Donc, c'est un peu comme je veux. Maintenant, il a quand même été écrit pour être au cinéma, pour être passé dans une salle. En fait, bon, je peux pas te raconter ça
On va croiser les doigts en tout cas. Christophe, il nous reste un tout petit peu de temps pour parler encore musique. Je te propose, pour les questions qui arrivent, de nous apporter peut-être des éclairages rapides. Est-ce que tu peux nous répondre juste en 20 secondes pour les prochaines questions par rapport à tes souvenirs d'intervieweur? On parle de musique, on parle de cinéma. Tu as dépassé les 1500 interviews, c'est absolument astronomique. Qui sont, en fait, juste en nous donnant les noms, quelques noms, les artistes que tu as particulièrement adoré rencontrer, que ce soit en musique ou en cinéma? Quels sont les noms d'artistes qui te viennent?
Écoute, en fait, comment tu veux que je réponde en 20 secondes? Si tu veux, les interviews qui m'ont le plus enrichi personnellement. Donc c'est pas spécialement lié aux personnes interviewées, mais plus au moment même. Il y a pas de règle. La première qui a été une interview clé, et je vais t'en citer qu'une, et en fait le groupe est pas spécialement important pour moi, c'est un groupe que je n'écoute plus du tout depuis plus de 30 ans. C'est Helloween. En fait, Helloween, c'est ma première interview, c'est pour le numéro 5 de mon fanzine, ou 6, je sais plus. Première interview que j'ai vraiment travaillé. Et donc, c'est la première fois où j'ai eu ce déclic et j'ai compris qu'en bossant les interviews, t'avais un résultat qui était exceptionnel par rapport à juste débarquer, salut, j'ai 15 piges, je fais un fanzine, j'aime bien ce que tu fais. Voilà. Pour la petite histoire, en fait, cette interview a débouché sur la rencontre avec ma femme, puisque le guitariste d'Helloween m'a a insisté pour que j'aille au concert le soir, que je n'avais vraiment pas envie de faire. Et en plus, c'était le Zénith, je déteste cet endroit. Et j'y suis allé, et en fait, j'ai retrouvé ma future femme, qui est en fait quelqu'un que je connaissais déjà, qui était juste devant moi, dans la salle.
Ah, belle histoire. Donc, voilà. Helloween, sinon... groupe de métal allemand fondé en 84, c'est un groupe qui existe toujours, je crois.
Ouais, c'est une espèce de Iron Maiden à l'allemande, avec une voix insupportable, un chanteur. Comme ça,
quoi. Et dis-moi, dans le cinéma, on a évoqué Terry Gilliam, avec qui tu es devenu ami. On pourrait parler de Jean Rochefort, on pourrait parler d'un tas de gens. Au niveau apport et enrichissement, quel est l'artiste de cinéma qui t'a vraiment explosé la tête?
Je pense que, en mettant Thierry à côté, les deux principaux, c'est Coppola et Friedkin.
Alors pourquoi Coppola d'abord ?
Parce qu'en fait, l'un et l'autre ont été à la mesure et à la démesure de leur œuvre. C'est-à-dire que souvent, tu as une espèce de déception. C'est-à-dire que tu vas rencontrer quelqu'un parce que tu aimes ses films, et puis en discutant, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, tu te rends compte que, ces films sont peut-être finalement pas spécialement le miroir de ce qu'ils sont eux-mêmes. Voilà, c'est plus un travail d'équipe, il y a un truc qui cloche, je ne saurais pas dire quoi. Je fais partie des gens qu'on appelle les super empathes, les sur-empathes, c'est ça. Donc on a un peu cette malédiction qui est que quand quelqu'un nous ment ou quand quelque chose est faux, ouais, on le voit tout de suite. Ouais. On n'arrive pas spécialement à mettre des mots dessus, mais on le sait tout de suite en fait. Et parfois j'ai cette déception-là où je sens qu'il y a un truc qui cloche.
C'est arrivé avec Coppola, ça.
Non, justement. Non. Coppola, il était encore plus mieux que ce que je pensais. Il faisait encore plus corps avec son travail que ce que je pensais.
Et puis pareil pour Friedkin. Tu citais Friedkin, voilà. Donc on peut parler de L'Exorciste ou de French Connection, réalisateur de légende. Qu'est-ce que ça a donné cette rencontre ?
Friedkin, j'ai interviewé trois fois, dont une fois où on a parlé que de French Connection. Et c'est juste passionnant. En fait, Friedkin a un truc que moi j'adore, c'est qu'il se souvient de tout. Ouais. Donc on va lui dire, cette scène-là, c'est curieux, Pacino fait une drôle de tête. Ouais, mais alors je vais te dire pourquoi, c'est parce qu'il faisait moins 5 degrés, alors on était sur tel boulevard, il se passait ci, il se passait ça. Ouais. En fait, c'était il y a 30 ans, il y a 40 ans, le mec il se souvient de tout. Et c'est absolument génial. Et en plus, moi qui ai beaucoup interviewé de musiciens, notamment de musiciens qui ont pris certaines substances qui leur ont laissé la tête comme des gruyères.
Je vois pas de quoi tu parles.
Ouais, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Exact. Dans le cinéma, au moins, j'ai pas ça. J'ai d'autres choses. Il y a ceux qui se la pètent, il y a ceux qui. Voilà. Je veux dire, tu vas interviewer Spike Lee, c'est juste. C'est un calvaire. Quoi. C'est un calvaire. Mais tu lui dis un truc qui lui plaît pas, il boude. Faut arrêter. Quoi.
J'ai une dernière question à propos du cinéma et puis des réalisateurs américain, puisqu'on est en plein dedans. Est-ce que tu as rencontré Stanley Kubrick ?
Non, il est mort. Déjà, il donnait très peu d'interviews.
Oui, ça, c'est vrai.
Vraiment très, très peu. Et en fait, il se trouve que... C'est amusant, parce que je l'ai rencontré sans le rencontrer, quelque part. Il se trouve que l'éditeur qui a sorti mon bouquin sur les films cultes, je suis allé à sa rencontre parce qu'il a sorti un livre avec la dernière interview de Kubrick.
D'accord.
Il était allé faire à Londres, une espèce de bunker, un truc bizarre. Et cette interview, en fait, il m'a permis de l'écouter, d'en écouter l'audio, en fait, la cassette audio, que j'ai d'ailleurs, parce que cet éditeur, cet ami est mort. Et en fait, j'ai récupéré ses affaires. Donc j'ai cette cassette. J'ai la cassette audio de la dernière interview de Kubrick. Mmh. Donc, quelque part, voilà, je suis un témoin avec un petit peu de décalage dans le temps.
Alors, on va quitter le monde du cinéma. Il nous reste quelques minutes pour évoquer l'actualité, ton actualité, celle du retour de Crossroads. Tu as consacré des hors-séries au format MOOC, c'est-à-dire à mi-chemin entre le magazine et le livre de Crossroads Compact. Il y a eu des hors-séries, donc tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Mark Knopfler, Calvin Russell, par exemple. Je voulais savoir comment est-ce que tu choisis les artistes qui vont y figurer dans ces hors-séries.
Alors, il y a le nouveau Crossroads et il y a les hors-séries.
Oui.
Les deux sont au format MOOC. Calvin, par exemple, c'est une des couvertures du dernier numéro.
D'accord, voilà. Ça, c'est pas un hors-série.
Mais il y aura un hors-série bientôt. Donc, tu n'avais qu'à moitié faux. voilà, c'est juste qu'il n'y a pas encore été annoncé. Alors, les hors-séries, en fait, ce sont des artistes avec lesquels on a une longue histoire. Mark Knopfler, par exemple, on avait déjà publié 5 interviews exclusives, peut-être 6, je ne sais plus, 5 ou 6, depuis le début de Compact jusqu'à la fin de Crossroads. En plus, c'était des exclusivités françaises, donc voilà, on était vraiment les seuls. Donc voilà, j'ai juste rajouté une autre interview inédite que j'avais faite moi d'ailleurs à l'époque de Best, qui n'avait pas été publiée. On a rajouté d'autres choses. Ange, c'est pareil. En fait, on a repris tout ce qu'on avait publié, plus des choses plus récentes, et on complète à chaque fois, on révise et on augmente. Voilà. Mmh. Donc voilà, c'est plutôt ça. J'en reviens à la fidélité dont on parlait au tout début. En fait, je reste fidèle aux gens, aux mêmes personnes, aux mêmes groupes, aux mêmes artistes. Depuis toujours. Et y compris des choses, là j'ai cité Ange et Mark Knopfler. Mark Knopfler, je n'écoute aucun de ses disques, j'en ai même pas un ici, tu vois. J'ai 15 000 disques, il n'y a pas un Mark Knopfler. Ange, j'ai pas un Ange ici, voilà. Mais voilà, c'est des gens que je respecte et je respecte aussi leur public, évidemment. Et donc voilà, c'est vrai.
Christophe, qu'est-ce qui t'a motivé pour ressusciter Crossroads ? Il y a même une version en anglais, je crois que tu as un peu laissé tomber à cause du Covid, ça se vendait peut-être moins, ouais. Je sais pas. Est-ce que la presse écrite a de beaux jours toujours devant elle.
Non. En fait, pour moi, la presse écrite n'existe plus depuis déjà très longtemps. Alors, t'as là, on parle de presse spécialisée, mais de manière générale, pour moi, c'est mort depuis très très longtemps. Les seules choses intéressantes, c'est les fanzines. Voilà, c'est juste les fanzines. Et moi, j'ai toujours considéré Crossroads comme une espèce de plurifanzine, en fait. C'est un fanzine qui ne ressemble pas trop à un fanzine parce qu'il est fait par 30 personnes.
Voilà.
Du coup, chacun y apporte son truc et toi, c'est pas monolithique.
Les gens qui travaillent à tes côtés, c'est les mêmes qu'il y a 20 ans. La liste a un petit peu évolué ou pas?
Ça change tout le temps,
ouais.
Au gré des décès, malheureusement. Wow. Non, je rigole, mais malheureusement, il y en a quelques-uns qui sont partis. Mais ouais, moi, pareil, je reste fidèle aux gens à partir du moment où les gens restent fidèles à eux-mêmes et donc continuent de s'exprimer, d'exprimer leur passion de la même façon. Il n'y a aucune raison que moi, je leur ferme la porte. Mais j'aime bien quand même aller chercher aussi, m'intéresser aux rencontres, en fait. Souvent, il y a des gens que j'ai fait écrire, qui n'avaient jamais écrit, qui sont simplement des gens que j'ai rencontrés, alors des fois sur des salons, des festivals.
Et à qui tu as mis le pied à l'étrier un petit peu.
Ouais, qui j'ai dit, mais tu ne veux pas écrire. Tu vois, ma dernière recrue pour le Crossroads, c'est un jeune mec de 26 ans, hyper talentueux.
Ouais.
Qui m'a acheté un disque sur Discogs. Ça a démarré comme ça. En plus, il m'a acheté un disque, un truc, je sais même pas ce que c'est, une musique abstraite, un truc que j'écoute pas, en fait.
C'est pour ça que tu le vendais, d'ailleurs.
Voilà, on a commencé à discuter, puis il m'a acheté un des bouquins, je trouvais ça bizarre, il m'a acheté le bouquin avec les entretiens des bluesmen,
ouais,
entre autres. Ça, c'est curieux.
Blues Country Folk, c'est ça? Blues Country Folk, ça.
Voilà, ouais.
On en avait parlé ensemble, souviens-toi, c'est pas la première fois qu'on se parle dans la radio, c'était en 2016, on avait évoqué ce bouquin-là.
Et voilà, et puis je lui ai dit, mais tu veux pas écrire? Parce qu'en fait, on a échangé, on s'est écrit par email et tout, et c'était vachement bien. J'aimais beaucoup son approche. Il s'appelle Jacques, c'est Jacques Rapati. En fait, je pensais qu'il avait 70 ans, 60 ans, il s'appelle Jacques.
Oui, c'est vrai que.
Ouais. C'est seulement, au bout d'un moment, il dit, ah bah tiens, j'ai pressé du vin en Allemagne, tiens, on va voir la vidéo, toi. Et je regarde la vidéo, il est juste super jeune, en fait. Et le mec, il a 26 piges, 27 maintenant.
Bon, donc la relève est assurée,
voilà,
en fait.
Donc, ouais. Voilà, j'aime bien ce côté renouvellement. Mais moi, j'essaye d'équilibrer, j'essaye de rester au centre et d'équilibrer un petit peu tout ça. C'est pas facile.
Christophe Goffet, toujours un souffleur de talent, on va dire. Et puis également, tu as d'autres cordes à ton arc, d'autres talents. On va en parler rapidement cette fois-ci. L'ouvrage de Nicolas Pegg qui s'appelle Tout Bowie, tu t'es amusé à le traduire. Il fait plus de 800 pages. Je crois que tu as fait ça avec ton fiston.
Ouais, avec mon fils aîné.
Ouais.
Là, actuellement, tu as le fils cadet qui fait la mise en page des bouquins et de Crossroads et le fils aîné qui a fait cette traduction. Et avec qui j'avais fait le festival Crossroads, festival de concerts confinés aussi.
Oui, le festival que tu as pu organiser pendant le confinement. On parle du Crossroads Confined Countdown Festival, c'est ça?
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a motivé à traduire le livre sur la vie de Bowie?
Déjà, ce livre, j'en avais vu la deuxième édition, je crois, en 2002-2003, on l'avait chroniqué dans Crossroads.
Ouais.
Et puis, cet éditeur, Nouveau Monde Édition, j'ai traduit un autre bouquin pour lui il y a quelques années sur la cybercriminalité, donc aucun rapport, qui s'appelle Les Crimes du Futur. Très intéressant, très mal écrit à la base, mais très intéressant. c'est un américain, on ne peut pas tout avoir. Et voilà, un peu après, il m'a parlé de ce truc, il m'a dit ouais, j'aimerais bien sortir Tout Bowie, mais en fait, bon, pour dire les choses, voilà, ça coûte énormément d'argent de traduire un bouquin de 4 millions de caractères.
Ouais.
Et il pouvait pas mettre cet argent. Voilà. Là, quand j'ai vu qu'il y avait un deuxième confinement, que ça allait être le bordel, etc., j'ai dit, écoute, je peux pas partir en voyage avec mon fils comme prévu, autant qu'on fasse un truc ensemble, autre chose, si tu veux, voilà, on va te faire Bowie pour le budget que tu as. C'est pas grave, ça me fait plaisir de le faire.
Mmh.
Voilà, donc c'est juste comme ça.
Et puis, tu ne te contentes pas de le traduire. Tu assures également les expéditions. Enfin, je pense que tu fais tout de A à Z, on va dire.
Ouais,
t'es souvent fourré à la poste. Enfin,
ouais, voilà. Non, mais si là, il est diffusé par Hachette, j'en ai juste récupéré une trentaine pour les gens qui voulaient un deuxième de ma part. Toi.
Et puis, qui voulaient en parler. Et pourquoi pas à la radio. D'ailleurs, tu as lancé une web radio. Tu peux nous en parler, ça, Christophe?
Ouais, en fait, c'est juste que, avec le temps, il y a énormément de gens qui me demandent, mais qu'est-ce que tu écoutes? Mais c'est quoi tes groupes préférés? Et puis, moi, j'écoute de la musique tout le temps, forcément. Et je me suis dit, parallèlement à ça, j'ai voulu aussi m'alléger, voilà, au niveau de mon environnement. Et donc, je me suis dit, je vais virer tous mes CD.
Donc, tu numérises tout?
Voilà, je vire mes CD, j'en fais des fichiers web, et je les bascule à la radio. Voilà, je ne mets pas tout à la radio, hein, je te rassure, mais sur la radio, il y a quand même 12 000 titres, ce qui est déjà pas mal.
Ah oui.
Et aussi, mon idée, l'idée, c'est d'avoir une espèce de complémentarité avec la chaîne YouTube du festival qui, à terme, deviendra la chaîne de Crossroads. Sauf que là, avec tout le bordel actuel, j'ai pas envie que les gens s'habituent à aller passer du temps
Ça, je crois que malheureusement, tu pourras pas y faire grand-chose. Et nous non plus, ouais, à la radio, c'est quand même bien parti pour. Hein. Ça serait un autre débat. Il faudrait une deuxième heure ensemble, Christophe. Mais la musique live, c'est en train de partir un peu en pot de saucisson quand même.
C'est bien, mais il n'empêche que moi, j'ai envie d'être. Je suis un peu dans une espèce de quête d'ataraxie de manière générale. Je recherche la tranquillité d'esprit et je suis plus tranquille avec moi-même en sachant que je suis droit dans mes bottes, quel que soit ce que je fais.
Mais je comprends la démarche.
Tout a des ramifications et tout va dans le même sens ou dans les mêmes sens. Et si ces sens sont interdits, ce qui arrive souvent, tant pis, et j'en ai rien à foutre.
Et tout a une cause et une conséquence, effectivement. Toute dernière question, Christophe. Ouais. Quels sont tes prochains projets? On va te retrouver sur le web, bien évidemment. Tu parlais de la chaîne YouTube. On peut également parler de ton compte ou de tes comptes Facebook sur lesquels on peut voir ton actu. Les prochaines choses qui vont sortir sous ton nom, ça sera bien sûr Crossroads, mais il y a peut-être d'autres choses encore dans les cartons.
Ouais. Alors, pour parler de presse, de MOOC, donc Crossroads continue. Donc là, on est en train de travailler sur le numéro 102 qui sortira quelque part entre janvier et mars. C'est compliqué avec les pénuries de papier. J'ai un hors-série qui sortira à peu près en même temps. Je ne sais pas encore sur quoi, j'hésite. Voilà. Mm-hmm. Mais je vais le décider rapidement. Brazil, qui fêtera lui-même ses 20 ans en septembre l'année prochaine, va également redémarrer au format MOOC. En fait, je teste. Je regarde si...
C'est une bonne nouvelle.
Voilà, je lance l'hameçon et je regarde si nos lecteurs d'avant sont toujours présents et toujours impliqués, toujours intéressés. On verra bien, j'en sais rien. Je vais d'abord sortir un ou deux best-of de Brazil avec des inédits, puis un hors-série qui en fait est prêt depuis des années. Donc tout ça, c'est vraiment deuxième semaine. Voilà pour la partie presse, en tout cas MOOC. En bouquin, en tant qu'auteur et éditeur, 6 livres qui sont prêts.
D'accord.
Mais j'attends parce que les salons, les festivals, etc., comme je refuse le pass sanitaire, j'y ai pas accès, ou même quand j'y ai accès, de toute façon, il n'y a personne. Les influences, c'est une catastrophe. Donc j'attends. C'est la même chose pour l'histoire du Crossroads en anglais, en fait. À l'origine, je devais aller à Utrecht, je devais aller à Milan, j'avais plein de choses de prévues, et puis tout a été annulé, donc du coup, je me suis retrouvé avec un stock qui n'est pas vendable, mais en tout cas, que je ne vends pas. Donc, il y a ça. Pour d'autres éditeurs, j'ai un livre avec et sur Iggy Pop qui sort fin mars.
D'accord.
Au mois de mai, je serai en tournée, entre guillemets, de dédicace en même temps que la tournée d'Iggy Pop, donc il fait 13 dates avec un day off un jour sur deux.
En France, en Europe ?
En France. 13 dates en France. D'accord. C'est la plus longue tournée de tous les temps. Mm-hmm. Donc, moi, je suis la tournée, je la démarre un peu plus tôt. Donc, du 1er au 26 mai, je fais le tour de France. Les jours de concert d'Iggy Pop, je dédicace dans la salle ou en marge, ou pas loin, etc. Et les autres jours, je dédicace ailleurs, sur le chemin, puisque en fait, c'est des villes assez éloignées.
Ouais, d'accord. Non, mais voilà, ça c'est
dit. Voilà. À ce moment-là, je sors également un facsimilé de l'intégralité de Mediator, qui est ma première revue pro, qui fêtera pile ses 30 ans, en fait. Mm-hmm. Je l'ai monté en mai 92, donc ça sera pile. Donc, je suis en train de bosser dessus, là, c'est quasi prêt. Et puis, le gros morceau que j'ai pas encore annoncé, donc je te réserve toujours un scoop.
Allons-y, avec plaisir.
Au mois d'octobre l'année prochaine sortira un livre qui n'a pas encore de titre bien défini, mais qui sera en fait une version mini-album du 800 albums essentiels qu'on a sorti et que tout le monde adore, enfin, mais qui sera quand même une version très augmentée, c'est-à-dire que je ne prends pas les 800 chroniques du premier bouquin et on en rajoute 200. En fait, déjà je ne garde que 680-700 chroniques du premier, évidemment on complète pour arriver à notre chiffre de 1000, mais toutes les chroniques qui restent sont relues, complétées, très augmentées. Il y en a qui passent du simple au triple. Voilà, c'est vraiment un gros, gros boulot. Donc ça va être un gros bouquin. Je fais ça avec l'équipe de Crossroads, les mêmes que pour le premier bouquin, moins quelques-uns, et plus quelques-uns en plus. Et ça sortira fin octobre l'année prochaine, au moment où j'espère faire la Crossroads Night numéro 2.
Ah oui, il y avait une première Crossroads Night de 8h30, c'était en 2004, avec une palanquée d'artistes. Ouais. Et donc, alors il va falloir le pass sanitaire encore, non, j'ai peur de ça.
C'est pour ça que
tu attends.
C'est pour ça que j'attends, voilà. J'attends de voir ce qui se passe. Et de manière plus générale, en fait, suivant ce que vont donner les prochains mois, et notamment les élections, il n'est pas impossible que juste je me barre de ce pays.
Ah d'accord, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de projets qui verront le jour, mais pas forcément chez nous. Écoute, Christophe...
Si, en fait, ça n'empêche pas, si tu veux, mais si tu veux, au bout d'un moment, j'ai 52 piges, je ne vais pas attendre que ça passe, tu vois. C'est bon.
On te retrouvera à Guernesey, peut-être, comme Victor Hugo, je ne sais pas.
Non, mais en Suède. En fait, je travaille pour monter un café-concert à Göteborg. Ça fait un moment que je suis là-dessus.
En Suède ?
Ouais, en Suède. Göteborg, qui est une ville très internationale, très étudiante, très jeune, qui bouge, qui n'est pas trop au nord, donc tu n'as supporte pas des, non plus des températures à la con. Qui est au bord de la mer, qui est face à la, au Danemark. Enfin, bon, voilà, il y a, pas mal d'intérêt. Et puis voilà, donc c'est un des trucs sur lesquels je bosse à côté au cas où. Quoi.
Très bien. Christophe, merci pour tout ça. Merci pour cette deuxième heure de Sweet Home Chicago qu'on a passé ensemble avec assez peu de musique, mais pas mal de choses intéressantes. Et puis, on te retrouve bien sûr sur le net et puis sur tous les endroits où ça bouge, parce que là où ça bouge, il y a Christophe Goffet, forcément.
Merci.
À bientôt, Christophe. Salut.
Ouais, à très bientôt.
Encore merci.
Ouais, bonne fin de week-end.
On va terminer ce 1125e Sweet Home Chicago avec la rubrique 50 Years After. On revient donc en 1971 avec l'album de The Band. Vous savez, le groupe qui a accompagné pendant de nombreuses années Bob Dylan, mais qui n'a pas fait que ça. L'album s'appelait Cahoots et voici Thinking Out Loud, The Band. On se retrouve la semaine prochaine sur le 666. Salut, bye bye.
parents.